Et bienvenue à La Grange, saison 2, épisode 9. Déjà, ça va Eric ?
Ça va très bien, je suis très heureux de ce retour de La Grange.
Bon, on n'est jamais vraiment parti, on est un peu comme la Covid-19. petit édito pour le plaisir, ça fait longtemps. Alors, on va continuer de parler des biais cognitifs. Rappelez-vous, ce sont ces petites erreurs de raisonnement qui arrivent à notre insu et qui faussent notre réflexion. Ce qui est bien regrettable quand on cherche à se planter le moins possible. Donc, dans les biais cognitifs, on avait déjà abordé l'effet Dunning-Kruger et l'effet Barnum. Et aujourd'hui, on va parler des biais d'attribution. De façon générale, les biais d'attribution, ce sont les erreurs de jugement qu'on commet lorsqu'on évalue notre propre comportement ou le comportement des autres. Je te vois avec un regard interrogateur sous ton masque.
Oui, je me demandais si j'avais fait du bruit.
D'accord. Merci Eric. Des biais de ce genre, il en existe une pelletée. La littérature à ce sujet est passionnante, mais je vais vous faire un résumé, un condensé. La crème de la crème des meilleurs biais d'attribution. Je vais commencer par un biais qui me touche particulièrement, c'est le biais d'autocomplaisance. C'est la tendance à attribuer plus de poids aux explications internes, comme par exemple les traits de personnalité, les motivations ou les intentions, pour ses succès, pour ses propres succès, et plus de poids aux explications externes, comme par exemple l'environnement physico-social, pour ses échecs. T'as rien compris, je vais prendre un exemple.
Si, j'ai bien compris que t'accusais tes parents quand t'avais un échec dans ta vie, et puis quand tu réussissais, tu disais que c'était grâce à tes...
L'exemple que j'avais pris, c'est par exemple, si j'ai une bonne note à un examen, je vais avoir tendance à penser que c'est grâce à mon travail acharné, à mon intellect hors pair, en gros que l'explication de ma bonne note, elle est interne à ma personne.
Voilà.
Si en revanche je me foire complètement, je vais avoir tendance à privilégier une explication externe, comme par exemple le fait que l'examinateur ne m'aimait pas, que mon voisin fait du bruit et m'a empêché de dormir, que mon stylo était cassé, enfin bref,
voilà.
Favoriser une cause externe. De manière opposée, on est également biaisé quand on essaye d'analyser le comportement des autres. Et cette fois-ci, c'est l'inverse, on surestime les causes internes au détriment des causes externes. Et ça porte pas le même nom, c'est un autre nom. Et ce biais, il a un nom hyper stylé puisqu'il s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Encore un petit exemple, mettons que je marche dans la rue et je me prends une gamelle de l'enfer. Donc mon biais d'autocomplaisance, il va me chercher des excuses. Bah, je suis tombé parce que la route était glissante, mes chaussures étaient usées. Donc des causes externes, parce que c'est pas un succès, c'est un échec. En revanche, si je vois quelqu'un se viander devant moi, donc après m'être marré dans l'indécence la plus totale, c'est normal.
Tu vas dire que c'est parce qu'il a une jambe plus courte que l'autre.
Ah non, du coup, vu que c'est quelqu'un d'autre, je vais favoriser une cause interne. Donc il est maladroit. Si je vois quelqu'un tomber, je vais avoir tendance à penser qu'il est maladroit. Ou quelqu'un faire tomber un truc dans un supermarché, je me dis il est maladroit. Ah. Si c'est moi, je me dis bah, j'avais les mains glissantes, machin.
Ah oui, bien sûr.
Je sais pas si ça vous rappelle des moments de votre vie, mais j'avoue que pour ma part, j'y suis hyper soumis. En plus de ça, donc, l'erreur fondamentale d'attribution, elle engendre un autre biais qui a un nom encore plus stylé, l'erreur ultime d'attribution, et je vais terminer sur ça.
Vas-y.
L'erreur ultime d'attribution, c'est la même chose que l'erreur fondamentale d'attribution, sauf qu'au lieu d'un individu,
c'est un groupe d'individus.
C'est la notion de groupe. On a l'endogroupe, c'est le groupe à laquelle la personne s'identifie, et l'exogroupe, le groupe des autres. En soi, il y a un nombre infini d'endogroupes. Selon que tu parles de politique, de religion, de sport, de travail, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'endogroupe des gens qui écoutent les podcasts versus ceux qui n'en écoutent pas, l'endogroupe des gens de gauche versus les gens de droite, les garçons contre les filles, les gens qui aiment Didier Raoult versus ceux qui savent lire une étude scientifique, les fans de foot versus les fans de basket, tu vois. Et tu peux même diviser l'endogroupe au gré de tes envies. Ça peut être les fans de foot supporters du FC Cancale contre les fans du foot du FC Landivisio, tu vois. Tu crées autant d'endogroupes que tu veux.
Okay.
Et dans ton endogroupe, tu vas privilégier les causes internes pour expliquer les succès et les causes externes pour expliquer les échecs. Je sais pas si tu l'as vu venir, mais ce biais est un déterminant majeur dans les comportements racistes et xénophobes.
Je l'avais très, très bien posé sur le concept politique. De se dire, tiens, à gauche, ils sont plutôt comme ça, et c'est parce
exactement.
Que voilà.
En gros,
et à droite, ils sont comme ça, parce que voilà. C'est comme ça. Ça, je l'avais... Enfin, c'est là-dessus que je le retrouve le plus, moi, dans mon système de schéma de pensée, quoi.
En fait, on le fait pour tout, inconsciemment. Et moi,
à droite, ils vont avoir tendance à dire, oui, à gauche, ils n'aiment pas travailler, ils profitent du système.
En gros, quand il y a un succès d'un groupe politique de gauche, ils vont dire que c'est dû à un événement extérieur.
Bien
ils
sûr.
Ont du bol, parce que machin...
C'est ça, si, parce qu'avant il y a eu ça, il y a eu l'affaire machin, sinon ça.
Voilà, par contre, si y a un scandale à gauche, c'est parce que intrinsèquement à gauche, voilà.
Ok.
Voilà. Voilà, c'était ma petite rubrique de biais cognitif. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis on passe à la suite, notamment au jingle.
La Grange Podcast. Esprit critique, esprit cynique.
C'est avec des bestioles comme ça, dans 30 ans, on est de retour dans la mer. Hein.
c'est un proto.
Eric, c'est une régression de l'humanité, mon gars.
Est-ce que tu veux parler de ta petite rubrique, de ton exposé de CE2 ou que sais-je encore, une petite remarque à chaud sur l'actualité?
L'actualité, il n'y en a pas trop depuis un an, mais non, bah, sinon, qu'est-ce qu'on peut pas, de quoi on peut parler?
On peut parler de, alors j'ai pas du tout bossé ça, mais des conséquences positives de la Covid. Je pense que d'un point de vue environnemental, ça aura plutôt des à mon avis, au doigt mouillé, je pense que ça aura plutôt des bonnes répercussions sur le plan de l'environnement. Notamment parce que ça a énormément diminué le trafic aérien, que ça a ralenti la consommation. Enfin, je pense que, globalement, j'espère en tout cas que c'est positif.
Bah, personnellement, moi, ça a clairement ralenti ma consommation.
On parlait...
que ce soit la consommation d'alcool ou de restaurant, on est au niveau zéro depuis...
Le restaurant, je ne sais pas si c'est la plus grosse dépense énergétique, mais c'est intéressant.
Bah, tu consommes quand même. Je sais pas.
Ouais, mais de toute façon, tu as besoin de bouffer quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pire que de bouffer une barquette toute faite? Je pense que le mieux du mieux, c'est de faire ton jardin, machin, mais clairement, bah, ouais. Tout le monde le fait pas. Tout le monde n'a pas de jardin.
Mais tout le monde ne va pas au restaurant deux fois par semaine, et clairement, moi, c'est ce qui me manque le plus. Hein.
D'aller au restaurant deux fois par semaine. Donc, ouais. Si vous aussi vous êtes un communiste qui allait deux fois par semaine, vous pouvez écrire à Eric.
Qu'on soit au moins deux, quoi. Non, bah, ça c'est ce qui me manque le plus. Après, personnellement, je me sens assez privilégié parce que j'ai un travail, quoi. J'ai une pensée un peu tous les jours pour les gens qui...
Tu te sentais pas privilégié avant quand t'allais deux fois par semaine au resto?
Non, tu vois. Parce que tout le monde fait ce qu'il veut de sa thune, quoi. Je veux dire, tu peux décider de faire un gosse et puis de mettre ton argent dedans, ou tu peux décider d'aller au resto.
Non, ne mettez pas d'argent dans des gosses, c'est illégal. C'est le pire con.
Dans l'éducation de vos gosses, par exemple.
C'est gratuit, c'est la France.
Les couches aussi, elles sont gratuites.
Tu peux. Tu peux fabriquer des couches en bois, si tu veux.
Non, mais il y a tout ça, voilà. Mais là, je me sens vraiment privilégié, c'est d'avoir un boulot, quoi, dans cette période-là. Je vois autour de moi la détresse des gens qui en ont plus. Je vois quand je passe devant les restos du cœur, je vois la file qui s'allonge. C'est clairement sur cette partie-là que je me sens privilégié aujourd'hui. C'est celle d'avoir une place dans la société où tu peux, où tu as un revenu et où tu te sens pas inutile, quoi. Parce que même si j'avais de la thune, mais que je restais à la maison, vu que tu peux rien en faire, c'est vraiment, ça me semble vraiment très très dur là de rester chez moi et à tourner en rond, quoi. Voilà, donc une petite pensée à tous ceux qui n'ont pas cette chance, et bah, je vous dis bon courage, quoi, et puis je pense fort à vous. Ça, c'est la partie pas très drôle du podcast.
Ouais, mais
attends, après j'ai préparé une rubrique encore moins drôle sur le peuple kurde.
Vas-y, hein, c'est t'y part.
On n'a pas de jingle.
Si, on a un jingle pour ton écran.
C'est cool de pas être drôle. Tu parles bien là maintenant?
Mon exposé de CE2. La rubrique où je fais mon exposé de CE2.
CE2, prise 3.
Tu le gardes ça?
Ouais,
c'est... Ok. Non, un exposé de CE2 dont je ne suis pas très très fier, mais... Comme c'est un exposé de CE2, je l'ai bien sûr pompé sur Internet. Je vous recommande donc l'excellente vidéo du Monde en carte que vous pourrez retrouver sur YouTube, où il a fait un travail exceptionnel de vulgarisation de l'histoire du peuple kurde de 1920 à nos jours, que j'ai principalement repompé dans cette...
Inspiré.
Ah, oui.
Éviter.
Clairement, clairement, c'est du plagiat. Non, mais vu que vous êtes en train d'écouter Lagrange, vous embêtez pas à aller cliquer sur sa vidéo tout de suite.
On est bien, on est entre nous, c'est confortable, c'est cocooning, c'est confinement.
Vous pouvez directement écouter cette chronique et puis la compléter avec la vidéo.
Mettez votre masque, reculez un petit peu, une petite plaque de plexiglas, on est pas mal.
Voilà, donc bien enroulé dans votre plaid, je vais commencer cette exposé sur les Kurdes, qui représente un peuple de 44 millions de personnes, principalement situé, alors pour 20 millions, dans le sud-est de la Turquie, 8,5 millions dans le nord de l'Irak, 3,6 millions dans le nord de la Syrie et 12 millions dans l'ouest de l'Iran. Leur religion, c'est principalement l'islam sunnite. Ils ont fait partie des différents califats de la zone avant, puis après ils ont été intégrés à l'Empire ottoman pour aujourd'hui être séparés entre ces quatre pays. En 1920, la Société des Nations se dit qu'ils vont leur créer un territoire, donc dans le sud-est de la Turquie, avec au-dessus l'Arménie. Donc les Turcs, à l'époque, il y a eu le père de la nation turque moderne, Mustafa Kemal Atatürk, qui ne le voyait pas comme ça, qui voulait garder une Turquie importante, un peu comme, comme aujourd'hui, et donc qui a balayé cette idée et qui a récupéré l'Arménie et le Kurdistan créé à l'époque. Donc pour l'Arménie, ça a été une déportation massive et un génocide. Et pour les Kurdes, ça a aussi été une déportation. En 1945, les Kurdes du coup sont déportés et il y a quelques révoltes qui éclatent en Iran et en Irak pour créer des Kurdistans, mais ces révoltes sont aussi violemment réprimées. Il y a une république qui, la seconde ou première république vraiment kurde qui a existé, ça a été en Iran. Juste en 1945, parce que les Britanniques et les Soviétiques sont arrivés en Iran. Donc les Britanniques soutenus par la coalition américaine de l'époque et les Soviétiques qui avançaient. Et donc début de guerre froide, les troupes iraniennes se retirent et là les Kurdes en profitent et tout le long de l'ouest de l'Iran, ils vont créer la République. Je fais ça de tête, donc forcément. La République de Mahabad. Voilà, donc c'était une république à un long bandeau, comme ça, le long de la frontière iranienne-irakienne. Cette république, bien sûr, va pas tenir très longtemps. Je crois que c'est à peine un an, parce qu'elle tenait des soutiens soviétiques qui envoyaient des armes et une imprimerie, de ce que j'ai lu. Donc, c'est histoire de favoriser l'éducation. Donc,
c'est une excellente idée. C'est bizarre envoyer une imprimerie. La construire sur place, je ne sais pas.
Ouais, ils ont envoyé le matos pour construire une imprimerie, j'imagine. Et l'histoire de lancer. Ça a été les premiers livres imprimés en kurde. Donc, ils ont pu. En un an, ils ont fait énormément de choses.
Parce que du coup, ils ont leur propre langage.
Alors, en fait, c'est. Ils ont une base commune dans la langue, mais il y a plein de.
De dialectes.
Il y a plein de dialectes, en fait, en fonction de là où ils sont. Donc, c'est une base indo-européenne commune, mais avec des différences de dialectes et puis beaucoup d'apports de l'arabe, vu qu'ils sont entourés de pays arabes. La République de Mahabad, elle a été complètement dissoute et ils se sont retrouvés à se faire pourchasser par les Iraniens, par les Irakiens et même par les Turcs. L'histoire affreuse, le gouvernement se carapate jusque chez les Soviétiques. Pour ceux qui se rendent, les Irakiens leur avaient promis la vie sauve, ils les pendent et ils arrivent, ils sont que 500 en Union soviétique. Donc premier épisode pas très joyeux. Donc sur cette période jusqu'en 1975, les Kurdes se révoltent en Irak et en Iran. La géopolitique étant ce qu'elle est et souvent affreuse, les Kurdes irakiens sont soutenus par l'Iran pour emmerder le voisin irakien. Et inversement, les Kurdes iraniens sont soutenus par l'Irak. Et bien sûr, ce qui est arrivé, il y avait des révoltes en Iran des Kurdes iraniens et c'est les Kurdes irakiens qui sont allés mater les révoltes. Ça c'est affreux, mais
ils ont créé un sous endogroupe, tu vois.
Les Kurdes c'est que des endogroupes, tu vas voir. C'est vu qu'ils sont répartis un peu partout et qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts géopolitiques. Souvent, ils se retrouvent à ne pas combattre le même ennemi parce qu'ils ont pas les financements arrivent pas des mêmes endroits.
D'accord. Alors, je t'ai donné un sujet badant comme ça, je ne sais plus.
Ah ouais, mais souvent les peuples apatrides, c'est pas très c'est pas très joyeux.
Parce que j'avais regardé le Bureau des légendes.
Donc ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone, que ce soit en Turquie, en Irak, en Iran, et même en Syrie, où ils n'ont même pas la nationalité en Syrie. Voilà.
Ils sont apatrides en Syrie ?
En Syrie, ils étaient apatrides jusqu'à pas très longtemps. Je vais y D'accord, revenir, okay. Mais oui, c'était clairement des citoyens de seconde zone
okay.
Qui n'avaient pas le droit de vote, enfin, des apatrides, quoi. Alors, il faut que je parle du PKK, parce que c'est une branche turque des Kurdes, c'est une branche armée qui a été créée par Abdullah Öcalan dans la région du Sud-Est, justement. Il y a un moment, il y avait plus de 20 000 combattants du PKK dans cette partie-là de la Turquie. Et elle est d'inspiration marxiste. Donc ça, c'est important parce qu'on va retrouver ça aussi chez les Kurdes de Syrie, là, dernièrement, et aussi chez les Kurdes irakiens. Donc il y a beaucoup, ils sont beaucoup d'inspiration marxiste-léniniste. Donc il y a eu ce PKK beaucoup parce que, comme je te le disais en début d'épisode, les Kurdes ont été déportés. Parce que le pouvoir central turc voulait turquifier la région, justement, pour éviter qu'il y ait des soulèvements et des révoltes à cet endroit-là. Et surtout, donc ils ont fait comme avec les indigènes aux États-Unis ou ailleurs. Ils ont essayé de leur. Ils ont envoyé les enfants dans des écoles turques, dans des centres turcs. Ils ont essayé de les couper de leur culture
d'accord.
Pour vraiment les faire disparaître, quoi. Comme ils ont pu essayer de le faire avec les Arméniens. Donc là, une partie encore plus triste, c'est quand,
cool.
Saddam Hussein est arrivé au pouvoir en Irak, il a utilisé des armes chimiques pour attaquer la population kurde. Donc, tu as le village, par exemple, de Kalabja, où il a tué 5000 personnes d'un coup.
D'accord. C'était pas interdit par la Convention de
si,
Genève.
D'accord, c'est interdit, mais c'est Saddam Hussein. Hein,
oh, okay.
Voilà, il a tué 5000 personnes d'un coup. Il a envoyé 200 000 soldats se déployer dans tout le Kurdistan.
200 000 pour un village de 5 quoi ?
Non, dans tout le Kurdistan irakien. Ah, oui. Et ils ont rasé 90% des villages kurdes à ce moment-là. Ils ont miné aussi toute la région. Donc, tu as eu plus de 15 millions de mines qui ont été posées un peu partout dans le Kurdistan irakien, ce qui en fait encore aujourd'hui l'une des régions les plus minées du monde. Voilà. Donc, juste après ça, tu as la guerre Iran-Irak, 80-88, où les Kurdes, bien sûr, des deux côtés, sont, comme je te l'ai dit, l'Iran fournit des armes et de l'argent aux Kurdes irakiens et inversement. Et donc, ils se tapent dessus. Et après la première guerre du Golfe, Saddam Hussein perd la première. Il essaye d'envahir le Koweït et enfin il envahit le Koweït, mais il y a la coalition des Américains qui le repousse et donc il perd cette guerre. Et les Kurdes créent alors une zone indépendante dans le nord du pays, dans tout le Kurdistan irakien. Et mais cette zone, elle est elle-même divisée en deux zones, tenues par dans le nord le PDK et dans le sud l'UPK, qui ne sont pas d'accord entre eux.
D'accord.
Voilà.
Donc, tu sais, c'est quoi les points de divergence?
C'est clairement politique, hein. C'est parce que le nord du pays est très très riche et très pétrolifère.
D'accord.
Et donc, ils ont des milices privées et ils se tapent dessus. Ils sont d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, pas très bien vus des Kurdes du Kurdistan, du Kurdistan irakien, justement parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'enrichissement personnel et pas assez de.
D'accord.
Pas assez de partage et de redistribution sur la population.
Ok.
Voilà. Donc, bien sûr, il y a la chute de Saddam Hussein pendant la deuxième guerre du Golfe. Et là, toute la zone du Kurdistan irakien se rapproche et ça devient le GRK, le gouvernement régional kurde. Et donc là, tu as une vraie zone, un vrai pays kurde qui se crée et bon, qui reste en conflit avec le gouvernement central de Bagdad. Parce que bien sûr, comme je te l'ai dit, la région est pétrolifère, et donc il y a 2-3 villes qui passent de main en main. Quand l'État islamique arrive et prend quasiment tout le nord du pays, c'est les Peshmerga. Les Peshmerga, c'est l'armée du Kurdistan irakien, qui représente 200 à 300 000 hommes, qui se bat contre l'État islamique, et donc qui récupère les villes. Mais après, Bagdad leur dit, bah non, mais c'était nos villes avant. Oui. Et donc, Bagdad renvoie des soldats. Et donc, ils se retapent dessus pour le contrôle des villes pétrolifères. Dernièrement, il y a eu un référendum sur cette zone-là, où le président du gouvernement régional kurde a demandé lancer un référendum d'autonomie qui est passé à plus de 92%, mais qui n'a pas été soutenu par les puissances étrangères, que sont la coalition contre l'État islamique, donc avec les Américains, la Turquie dont les échanges avec le Kurdistan irakien représentent 15 milliards de dollars à peu près, et pareil avec l'Iran, où ils échangent quasiment 10 milliards de dollars. Et donc, ils n'ont pas été soutenus par les puissances à côté. Et donc, c'est toujours pas un État à proprement parler. Ils sont autonomes, ils ont une armée de 300 000 hommes.
Ils ne sont pas reconnus.
Ils ont un gouvernement, une économie, mais ils ne sont toujours pas reconnus au niveau international. Donc voilà, ça c'est pour le Kurdistan irakien. Ouais. Et à côté, ce qui est le plus connu, qui est passé dans toutes les informations là, depuis 10 ans, c'est le Kurdistan syrien, la région du Rojava, comme on dit, qui a été libérée par les Kurdes syriens, donc le YPD, qui se battait contre l'État islamique.
Il n'y a pas de cas dedans.
Non. Et donc, à la base, quand il y a commencé à avoir la révolution en Syrie, tu avais plein de petits groupes qui ont fini par s'agglomérer pour faire l'État islamique. Et à côté, tu avais le YPD syrien, donc les Kurdes qui étaient au nord du pays, plus les révolutionnaires, mais les révolutionnaires qui étaient ni l'État islamique, ni le YPD. Et donc Bachar se battait contre l'État islamique et contre les révolutionnaires, mais le YPD était plutôt allié de Bachar, c'est-à-dire qu'il servait de la Turquie étant contre Bachar, ils servaient de base arrière au PKK qui se bat en Turquie, et donc oui, c'est assez compliqué et assez chiant, mais donc tout ça pour te dire qu'ils ne se sont pas battus contre Bachar. Et donc, ils sont battus contre l'État islamique. Et donc, ils ont réussi à faire une petite bande de territoire entre la Turquie et la Syrie et à contrôler ça. Donc, avec trois principales villes, dont Kobané, qui a été le symbole de cette guerre, qui a été enlevée par les YPJ. Donc, les YPJ, c'est la branche féminine du YPD. C'est que des brigades de femmes. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, les Kurdes ont une très bonne presse, c'est parce qu'ils sont très égalitaires au niveau des hommes et des femmes, et qu'ils ont une armée aussi principalement composée de femmes. Enfin, ils ont une branche armée composée principalement de femmes, qui ont libéré des villes avec des combats sanglants contre l'État islamique, et justement à Kobané. Là-dessus d'ailleurs, je vous conseille une BD que j'ai trouvée très très bien, qui s'appelle Kobané Calling, donc qui raconte le voyage d'un journaliste italien qui part en Turquie pour justement rentrer sur le territoire kurde et qui offre un... Bon, après, il est un peu neuneux, mais il offre vraiment un visage extérieur à ce combat et un visage assez neutre, c'est-à-dire sans avoir la vision turque qui est les Kurdes sont des terroristes parce qu'eux, ils subissent le PKK, ni la vision internationale de c'est super ce qu'ils font, et puis la guerre c'est beau quoi. Là tu passes, tu vois que les Kurdes affichent tous leurs martyrs sur les murs et qu'il y a des milliers de visages de gens morts pendant cette guerre. Voilà, donc là, il y a quelques années, la Turquie a attaqué le Rojava, justement pour éviter la naissance d'un deuxième Kurdistan, d'une deuxième enclave kurde dans cette zone. Et ce qui est assez horrible, c'est qu'ils n'ont pas été... Les Kurdes ont été lâchés du coup par Trump à l'époque, qui leur offrait un soutien aérien dans leur combat. Donc ils se sont retrouvés sans soutien aérien, ce qui est le nerf de la guerre, surtout dans des régions comme ça. Et ils n'ont pas été aidés non plus par le GRK, qui est la base du Kurdistan irakien, car le Kurdistan irakien fait des échanges avec la Turquie.
Avec la Turquie, oh putain, okay.
Donc, niveau géopolitique, c'est hyper compliqué. Et on voit bien que les Kurdes, qu'importe, en fonction de l'endroit où ils sont, ils espèrent tous avoir leur territoire à eux. Mais vu que au niveau de la géopolitique, des aides, des armes et de tout ce qui les entoure, ils n'arrivent pas à créer un État à eux.
Ok. Voilà. Et bah, c'était hyper gay.
Qu'est-ce que je peux dire? Bah si, sinon à chaque fois que... Je sais que pour Kobané, par exemple, et pour les villes qu'ils ont libérées le long de la frontière turque, ils ont tout de suite essayé de mettre en place un système marxiste-léniniste poussé, quoi, en mettant beaucoup d'efforts dans l'éducation, dans l'égalité homme-femme, dans les prises de décision, c'est que des conseils, beaucoup de démocratie directe. Donc si... C'est un beau projet à chaque fois qu'ils proposent, mais effectivement ils sont pas dans la bonne zone pour créer un pays, quoi.
Ok. Vachement triste. écoute, la prochaine fois j'essaie de peut-être un sujet un peu plus léger.
Ouais, mais je t'ai encore pas parlé des.
Ça a dû te prendre du temps, un temps fou.
Bah non du tout, je te dis j'ai tout pompé, mais en plus de mes connaissances de base, oui j'ai. Non, c'est assez compliqué, dans le sens où ils ont tous leurs petits groupes. Et puis, par exemple, PKK, c'est des luttes qui durent depuis beaucoup plus longtemps. Et là, ils ont commencé à avoir un côté politique en Turquie au moment où la Turquie voulait adhérer à l'Union européenne. Donc, ils ont réussi à avoir 13% des voix, donc 80 députés. Donc, ils avaient un peu de poids. Mais après, la guerre a éclaté et... Et en Turquie, le pouvoir central se veut très très fort. Donc, la démocratie a commencé à être étouffée. Donc, toute cette avancée-là n'a servi à rien. Et derrière, le PKK a repris des forces. Donc, c'est assez affreux. Et puis, on est tous là à se dire, tiens, les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Mais en fait...
En pratique, pas trop, quoi.
Géopolitiquement, c'est autre chose, quoi.
Voilà. Ok. On va peut-être passer à mon sujet.
J'espère qu'il est plus joyeux. Et puis, je suis désolé, je pense que je n'ai pas été très, très clair. Mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo du dessous des cartes. Là. Non, ce n'est pas le dessous des cartes, c'est le monde en cartes. Et c'est vraiment top ce qu'il a fait. Et puis sinon, la BD Kobané Calling, que vous pouvez trouver vraiment dans toutes les bibliothèques, ça a été un gros succès en librairie. Donc, n'hésitez pas à l'emprunter.
Ok. Ou à l'acheter chez votre libraire favori. Voilà.
Mon exposé de CE2. La rubrique où je fais mon exposé de CE2.
Et pour mon exposé de CE2, Eric m'a demandé de parler de la méditation, de ses bienfaits, des modifications de l'état cérébral, de son histoire, ainsi que son utilisation médicale.
C'est vrai, j'ai vraiment fait un truc assez long.
ouais, c'était ta phrase texto. Donc pour info, une recherche PubMed au 3 novembre 2020 donnait plus de 7000 occurrences sur le terme méditation. Donc le sujet, encore une fois, me paraît un petit peu trop vaste pour un seul homme. On va juste commencer par la base, une définition. La méditation, c'est une pratique mentale qui consiste à porter son attention sur une pensée, un objet, une émotion. Je reste volontairement vague parce qu'en fait, il existe une multichier de types de méditations différentes, qu'elles soient religieuses ou laïques. On va donc parler d'un truc à la mode qui est la méditation pleine.
Conscience,
vous en avez sûrement entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est une technique développée par le professeur Jon Kabat-Zinn dans les années 80, initialement dans l'optique de réduire le stress et d'augmenter le bien-être, ce qui est, ma foi, une bonne idée. Concrètement, c'était un bouddhiste, il a étudié la méditation bouddhiste, puis il a créé la méditation pleine conscience à partir de ça. Pour simplifier, il a fait une sorte de version occidentale et laïque de la méditation bouddhiste qui consiste à essayer de, je cite, j'ai trouvé ça sur le site méditationpleineconscience.fr, se libérer du flot de pensée pour se concentrer sur le moment présent plus longtemps et plus profondément. Depuis les années 2000, la méditation pleine conscience, ça a explosé, hein, ça s'est répandu plus vite que l'herpès génital dans mon collège, et plein de monde y est allé un peu à sa sauce. D'où pas mal de dérives, de, de monétisation, de voilà, de, c'est devenu un vrai business. Pour autant, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Bah, c'est pas parce que c'est un business que ça ne marche pas. En fait, j'aurais bien aimé vous dire que non, parce que moi, j'aime pas trop les trucs à la mode. Et voilà. Mais force.
Si vous voyez comment il est habillé, vous comprendrez.
Mais force est de constater que bah, ça a l'air de marcher, notamment dans les syndromes anxio-dépressifs. Si j'en crois notamment une méta-analyse de 2016 compilant 11 études sur bah, 7000 en entrée, tu vois, tout en haut de l'entonnoir, et puis à la fin, t'as 11 études.
Attends, 7000 ?
5000 ou 7000, ouais. Mais okay. C'est normal, hein. Il faut un entonnoir pour les méta-analyses. Cependant, il y a peu d'études qui s'intéressent aux effets néfastes de la méditation pleine conscience et des méditations en règle générale. J'ai trouvé un article de 2017, encore une fois en description, qui a des pistes pour, comme quoi ça pourrait quand même augmenter chez certaines personnes le risque suicidaire, la dépression, les flashbacks et les émotions négatives. Donc, en conclusion, si vous souffrez d'anxiété ou de dépression, bah, la méditation pleine conscience, ça paraît une piste à explorer, pourquoi pas, hein, en gardant à l'esprit que, bah, malgré tout, il existe une possibilité que cela aggrave vos symptômes. Voilà.
Ok. Et donc, par exemple, ne pas en faire non plus quand on conduit sa bagnole
Je ne sais pas s'il y a plus de risques ou pas d'accident. Je pense que c'est un très très bon site. Voilà, si tu veux te lancer une...
Je vais me lancer dans une étude, je pense.
Eh bien, écoutez, on cherche 8000 participants, donc... ça serait pas mal, ça serait difficile d'avoir un groupe contrôle quand même. Hein. Comment tu trouves un placebo Bon, peu importe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
C'est tout ce que tu avais à dire sur la méditation.
Sur 7000 études, bah, en fait, c'est tellement vaste
que t'as pas pris
ça
un
se retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les. Il y a un très fort lien justement avec la spiritualité, avec la religion. Avec les sectes aussi, c'est un outil formidable pour enrôler des gens dans ta secte. Enfin, vraiment,
je pense que c'est hyper
difficile de faire une secte sans méditation en fait.
D'accord.
Ouais. Voilà. Et non, je pense qu'en soi, l'idée de faire une version laïque de ça, c'était une bonne idée. Hein. Voilà. Globalement.
D'accord, mais donc il n'y a pas d'études sur le fait que ça t'apporte, par exemple, ça augmente tes défenses immunitaires, ça...
C'est compliqué, il y en a quelques-unes. Vraiment, ce qui est le plus solide, hein, les études les plus solides, c'est vraiment sur le...
bien-être ?
L'anxiété et la dépression, ouais. Bah, le bien-être, c'est une notion un peu vague, mais sachant que, bah, comme toujours, il y en a qui disent que ça aggrave, hein, mais globalement, l'un dans l'autre, ça a l'air plutôt d'être positif, ouais.
Ok. Donc, c'est méditer, c'est notre conseil journée.
Oui, alors sans vous embarquer, moi j'aurais tendance à quand même me méfier des dérives, donc faites vraiment attention si vous décidez de vous lancer là-dedans, avec qui vous...
Vous méditez, voilà, c'est comme tout, il faut faire attention avec qui on le fait. Quoi.
Exactement, protégez-vous. Deux applications qui ont l'air d'être dans le thème, il y a l'application Petit Bambou qui est assez connue en France, et Waking Up en anglais si vous êtes... anglophone, voilà.
Ouais, je comprends pas que vous écoutiez notre podcast si vous êtes anglophone, mais yes, Petit Bambou, j'aime beaucoup. J'aime bien déjà le
Little Bambou, comme on dit.
Little Bambou.
Ok, bah ça faisait longtemps. C'était un plaisir de se retrouver à cette table avec des cuillères en bois et des microphones. On vous embrasse fort et puis jingle de fin.
On va vous faire un petit bonus.
C'est vrai.
fait, j'ai vraiment envie qu'on fasse le bonus là-dessus.
Et en bonus, Eric voulait parler du hobby de créer des cuillères en bois.
Alors moi, j'ai un ami très très proche qui est devenu beaucoup trop adulte et donc qui s'amuse à faire des cuillères en bois.
Est-ce que tu en es content de ta cuillère ?
Et alors moi, j'en suis très content parce que je vais pouvoir faire des risotto. Je me vois déjà faire mon risotto avec cette cuillère en bois. Ça, c'est vraiment une phrase d'adulte chiant. Et mais grande question, c'est comment, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fabriques, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est toi, cet ami bizarre, comment tu fabriques tes cuillères en bois du point A au point Z, hein, clairement.
Voilà, très très vite, en fait il y a plein de tutos sur internet, sur YouTube, vous trouvez tout
le
bonheur.
Oui, mais en gros, est-ce que je n'ai pas déjà assez utilisé la technique d'aller regarder quelqu'un faire mieux que moi.
Tu coupes un tronc d'arbre de la largeur que tu veux pour le cuilleron. Le cuilleron, c'est cette partie c'est la partie avec laquelle
tu
manges. Voilà.
D'accord.
Tu coupes une branche d'arbre, un tronc d'arbre. Voilà. Attention, l'if, c'est toxique. D'ailleurs, ne coupez pas des ifs. En tout cas, ne mangez pas dans des cuillères en if. Voilà. Tu coupes ta bûche en deux avec une hache ou avec un couteau si t'es un guerrier. T'enlèves le cœur parce que sinon, quand ça sèche, ça fait des fissures dans ta cuillère.
D'accord.
Tu fais une plaquette, c'est-à-dire tu t'aplatis ta demi-bûche avec une hache ou un couteau, mais qu'une hache, c'est beaucoup plus facile. Une hachette, c'est beaucoup plus simple. Donc, tu fais la forme de ta cuillère.
Tu te fais une sorte de planche, une grosse planche, quoi.
Voilà, c'est ça. Tu fais la forme de ta cuillère, tu découpes le contour grossièrement à la hache, tu finis au couteau. Et quand t'es vraiment super bon, t'as pas besoin de papier de verre, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Surtout, retenez bien, le plus important quand vous faites des cuillères en bois, c'est que une cuillère en bois, ça vaut 1 euro en supermarché. Et que par contre, ça va vous mettre peut-être entre 4 et 8 heures à faire. Voilà. C'était mon conseil pour bien débuter les cuillères en bois.
Mais par contre, il y a tellement d'amour dans cette cuillère en bois que je suis sûr que je peux pas rater mon risotto avec ça.
Et ça a loupé l'appel de mamie, par contre.
Ouais, j'ai vu.
Bon, on vous embrasse et puis...
Arrête,
promis, la prochaine fois, ça sera plus gai.
Non, mais moi, j'ai une vie de ouf. Hein. J'ai des appels de ma grand-mère et des cuillères en bois en cadeau, mais...
J'avoue.
Franchement, ma vie d'adulte. Et j'ai un boulot.
Et une écharpe en soie.
Oh là là, on va trop dans le détail.